France Inter.
It's morning edition from NPR News.
MCT's on in the house.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Synthèse.
L'Europe est-elle toujours dans la course à l'espace ou devancée pour de bon par les Américains, par les Chinois? L'Agence spatiale européenne se réunit demain et après-demain. Ce sera le moment de revenir peut-être dans la cour des grands. On le verra avec notre invité. On verra surtout si on en a les moyens. Les enlèvements reprennent au Nigeria. C'est le monde à l'endroit. Et ce sera Louise Baudet comme chaque soir. Le reportage, c'est une histoire d'exil entre Gaza, le Caire et la Bretagne.
Là, aujourd'hui, je suis à Rennes, bien installée. Mais à part ça, moi, je suis toujours à la palestinienne. Et qui est très fière de ses origines et qui vont retourner un jour, bien sûr.
Allez, à découvrir autour de 18h41. Sous les radars, Guillaume Audat a trouvé un volcan éthiopien qui se réveille d'une sieste de 12 000 ans. Et Caroline, au pays des 27, Caroline Gillet nous présente celui qui est responsable de la stratégie des relations interinstitutionnelles, de la sécurité, de l'information. Mais vous allez voir, il est beaucoup plus simple et festif que son titre. Le monde est vaste et on n'a pas une heure. Allons-y.
Attention pour décompte final. 3, 2, 1, top. Allumage de GSR et décollage.
C'est Ariane 6 et c'est cet été ce décollage. Bonsoir Xavier Pascaux.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes directeur de la Fondation pour la Recherche Stratégique. Je le disais, demain après-demain, donc conférence ministérielle de l'Agence Spatiale Européenne. Ça se passe à Brême. Elle devra dire les ambitions européennes, les contours aussi de notre politique spatiale. Qu'est-ce qui se joue de crucial dans ces deux prochains jours face aux Américains, je le disais, face aux Chinois? Est-ce qu'on est encore dans la course? J'ai entendu même le mot déclassement en préparant cette émission.
Oui, c'est un mot qu'on entend beaucoup ces temps-ci. Ce qui se joue pour l'Europe, en fait, c'est sans doute sa crédibilité en tant que partenaire dans les coopérations dans lesquelles elle est impliquée, notamment avec les États-Unis, sachant qu'aux États-Unis, comme en Chine, alors, mais surtout aux États-Unis, à vrai dire, on a une inflation des budgets. Alors, même si la NASA, l'agence spatiale américaine elle-même, subit les foudres de
Donald
Trump,
notamment
dans le domaine scientifique. Mmh. Alors là, on a vraiment l'application d'une espèce de principe politique de défiance vis-à-vis de tous ces programmes qui doivent surveiller la planète, etc. Mais globalement, on a quand même une activité un peu surdimensionnée aux États-Unis, avec comme exemple Elon Musk, qu'on connaît tous. Aujourd'hui, il faut savoir qu'à peu près 70% des satellites, un peu plus de 70% des satellites actifs en orbite sont les satellites qui appartiennent à un même homme, Elon Musk. Donc ça, c'est inédit dans l'histoire.
Et le reste à Bezos, plus ou moins, non?
Alors pas encore, Bezos est en train de les mettre, mais il va compléter. Et puis on a aussi deux constellations, on appelle ça des constellations, les ensembles de satellites chinoises de 12 000 satellites chacune, qui seraient en préparation. Et là, effectivement, l'Europe est un peu en arrière.
Alors deux choses. D'abord, on pensait qu'Ariane 6, effectivement, avait rouvert un peu les portes de l'espace à l'Europe. Est-ce qu'on s'est trompé? Est-ce que c'est la... Vous avez cité Elon Musk ou Jeff Bezos, est-ce que c'est la technologie qui nous manque? Est-ce qu'on a vraiment un coup de retard sur la technologie? Est-ce que c'est ça qui fait que... Moi, j'ai trouvé ce chiffre aussi qui m'a paru assez dingue quand même. Lancement 2024, 156 tirs de fusée pour les États-Unis, 68 pour les Chinois, 3 pour nous.
Oui, alors, on a eu un accident un peu industriel quand même sur la question des lanceurs, avec effectivement une difficulté technologique de mise au point d'Ariane 6. Alors après, Ariane 6, c'est un très bon lanceur classique, qu'on ne réutilise pas, donc ça c'est la grande différence avec Bezos, mais c'est un lanceur qui va avoir un carnet de commandes pour les prochaines années quand même d'environ 11 tirs par an, ce qui était la cadence classique de l'Europe. Ce qu'il faut bien voir, c'est que la nouveauté dans tout cela, c'est du côté de Musk, et effectivement les Chinois lancent de plus en plus. On lançait en moyenne dans le monde, il y a encore 6 ans, 80 fusées par an. On lance aujourd'hui dans le monde peut-être 200 ou plus de 200 fusées par an. Et ça va encore grimper. Ça, c'est tout à fait nouveau et c'est lié à cette nouvelle manière d'utiliser l'espace. Il se trouve qu'en Europe, on pourrait, bien sûr, et on est en train de réfléchir à la mise au point de lanceurs réutilisables, mais un lanceur, ça sert à lancer des choses, en fait. Et donc, il faut avoir un programme qui accompagne tout ça. Et là, c'est vraiment une manière de se projeter dans l'espace qui est différente.
Ouais. Est-ce que, on parlait d'Ariane 6 tout à l'heure, il y a aussi dans l'air, chez les Européens, le fameux, la constellation Iris 2, vous parlez de constellation tout à l'heure, donc lancer vraiment des satellites par dizaines de milliers. On dit chez nous que ce ne sera pas prêt avant 2030. Donc vous parliez de Musk tout à l'heure. Il a aussi Starlink. Donc on a l'impression qu'il lance les fusées. Il a les satellites parce qu'avec Starlink, il a une force de frappe absolument gigantesque. Là aussi, j'ai toujours l'impression que nous, les Européens, on court derrière.
Alors voilà, bon, la constellation Iris 2 ou Iris carré, comme disaient les Européens, c'est vraiment une constellation qui est qui consiste à garder une souveraineté sur ces questions-là.
C'est exactement ça.
Donc ce sont des satellites qui sont très très sophistiqués d'un point de vue technologique, mais là ce ne sera pas par dizaines de milliers, ce sera par quelques centaines. Mm-hmm. Donc on est dans quelque chose de très différent, et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est une difficulté en fait à se déterminer pour savoir si on va jouer cette course de l'inflation satellitaire.
Exactement.
Et de la
mais du coup, est-ce qu'on a perdu la carte, est-ce qu'on a perdu la souveraineté, ou est-ce qu'on se dit ouais, on a perdu, donc tant pis, on est obligé de compter sur eux, on trouvera un accord, mais c'est sur eux qu'on compte parce que ce sera finalement plus simple que d'essayer de créer notre propre constellation.
Alors,
aussi
je pense
puissante.
Qu'on réfléchit effectivement d'une certaine manière en forme de cercle concentrique. On veut d'abord s'assurer d'un certain nombre de points souverains. C'est l'accès à l'espace. Donc Ariane 6, c'est pas des Falcons, ça se récupère pas, mais ça permet de lancer des choses quand on veut les lancer. Premier point. Deuxième point, on veut pouvoir télécommuniquer, on veut pouvoir observer des choses. On a des satellites pour faire ça. Mais évidemment, pas avec la quantité que les Américains, etc., mettent sur la table. Et d'une certaine manière, quand même, quand vous avez des moyens souverains, c'est mieux que de ne rien avoir du tout, parce que vous pouvez, du coup, négocier, on va dire, des accès à ces choses-là.
Mais si demain, Xavier Pascaud, si demain Elon Musk mettait à exécution les menaces qu'il a faites il y a quelques mois vis-à-vis de l'Ukraine, en disant, on va couper Starlink, si demain les Russes refaisaient ce qu'ils ont déjà fait, c'est-à-dire des brouillages ici et là de certains satellites utiles notamment à la navigation. Si demain il se passe ça, et la probabilité pour que ça se passe est quand même sacrément haute, est-ce que nous, l'Europe, on s'en sort? Est-ce qu'on s'est pallié? Ou est-ce que cette marche est définitivement trop haute?
Alors, oui, précisément, vous, Europe, en tant qu'utilisateur de spatial, ce que vous voulez en réalité, c'est pouvoir vous fragmenter, utiliser le plus de systèmes possible, qui va obliger l'adversaire à être vraiment très très puissant pour vous embêter. Mmh. C'est un peu la démarche américaine d'ailleurs. Aujourd'hui, les militaires américains utilisent évidemment des programmes militaires, mais sont prompts à utiliser des programmes commerciaux pour augmenter leur capacité. Nous, bien finalement, Européens, on est un peu dans cette position-là. Et on a Galileo, vous savez, c'est le GPS européen. Ouais. Donc évidemment, on peut brouiller Galileo, on peut brouiller des satellites de télécom, on peut pas tout arrêter, on peut pas tout casser quand même. Donc, je dirais que notre vulnérabilité, je dirais que dans l'espace, à la limite, la vulnérabilité est plus importante quand vous avez le plus de satellites et que vous reposez dessus véritablement. Nous, on a un peu moins de satellites, on a d'autres systèmes qui permettent de fonctionner. Donc, on est dans une démarche un tout petit peu différente. Mais il ne faut pas se leurrer, effectivement, on a besoin de ces infrastructures.
Et puis là, la démarche, elle est géopolitique, non? Parce que la question, en fait, derrière, c'est est-ce que oui ou non, on laisse l'espace à potentiellement des ennemis de l'Europe? Une vraie question qui va même au-delà de la technique, en fait.
Voilà, au-delà de la technique. Alors, vous avez raison, c'est est-ce qu'on laisse l'espace à des amis de l'Europe, entre guillemets, comme on dit. Et puis, est-ce qu'on laisse l'espace à des acteurs privés qui ont des intérêts un petit peu différents que l'intérêt général? On voit bien qu'aux États-Unis, ce qui se passe, c'est pas vraiment une privatisation du spatial, c'est une reconfiguration des rapports entre l'acteur public et le secteur privé au bénéfice des deux. Ça, en Europe, on a vraiment besoin d'y penser. C'est-à-dire qu'on a besoin à la fois, sans doute, de favoriser le développement d'une activité spatiale, commerciale, le cas échéant, et de comprendre comment on peut retailler des relations, c'est-à-dire reconfigurer des relations au bénéfice de l'intérêt général.
Qu'est-ce qu'il faut faire, par exemple, avec des gens comme Eutelsat qui viennent de se refaire une santé financière? Est-ce qu'il faut se dire, la concurrence de Starlink, en réalité, c'est plutôt Eutelsat? Il faut le jouer privé contre privé, en fait.
Ben, d'une certaine manière, absolument. Et Eutelsat, il faut se rappeler qu'à l'origine, c'était une organisation gouvernementale qui a fait sa transformation et qui est devenue une entité privée. Eutelsat, aujourd'hui, à cette constellation OneWeb, qui est la constellation européenne, mais elle a aussi une flotte de satellites géostationnaires. Elle veut opérer cette constellation IRIS-CARE, ce serait la partie commerciale d'IRIS-CARE. Et on voit bien que, finalement, c'est un bon exemple de cette nature composite du spatial aujourd'hui. En fait, le spatial, c'est plus des satellites qui appartiennent à quelqu'un, c'est des infrastructures vastes qui s'interconnectent entre elles. D'ailleurs, le spatial se dilue aussi avec les autres réseaux. Ça, c'est typique de Jeff Bezos, par exemple, c'est sa démarche. Et donc, on a des gens qui, finalement, voient le spatial essentiellement comme un bout de réseau parmi d'autres, avec une interconnexion. Ça, les Européens peuvent jouer leur carte. Et on a quand même, évidemment, de l'excellence technologique, une industrie qui sait faire. Mais néanmoins, et ce serait le bémol que j'ajouterais, le spatial, ça marche d'abord avec de l'investissement public. Ça marche avec du soutien public. L'essentiel du budget qui circule dans le spatial, c'est du budget d'origine publique. Et là, il ne faut pas se méprendre. Aux États-Unis, ils investissent lourdement.
60%.
Voilà.
Ouais, le 10% pour nous, 60% pour les Américains, 15% pour les Chinois.
Absolument.
Ouais, c'est là qu'on voit l'immense différence. Puisqu'on est en train de parler gros sous, Xavier Pascaud, ce qui est ce qu'on va voir probablement d'ailleurs dans les deux jours à venir, et ce qu'on voit, c'est qui peut mettre combien. Et on connaît les situations budgétaires de chacun, mais on se rend bien compte que les Allemands sont en train de donner beaucoup beaucoup, les Italiens aussi peut-être en train de nous dépasser un moment ou un autre. On se rend compte surtout que chacun finalement essaye de la jouer un peu perso, la fameuse constellation dont vous parliez. Les Italiens et les Allemands sont aussi prêts à la lancer. J'ai bien compris que les Allemands aussi pouvaient être les successeurs d'Ariane 6 d'une manière ou d'une autre. Donc est-ce qu'il ne faut pas se méfier de nos amis plus qu'encore que de nos ennemis là en ce moment?
Oui, sans doute. C'est-à-dire que là encore, il faut qu'on se décide collectivement à jouer la carte européenne. On a déjà ce sentiment que tout le monde n'est pas tout à fait honnête là-dessus, avec des pays qui font lancer par SpaceX plutôt que de faire lancer par Ariane, qui sont des pays européens, pour des programmes institutionnels. Et puis là, effectivement, on a une renationalisation un petit peu en Allemagne et en Italie. Mais il est vrai que le spatial, ce n'est pas quelque chose qui est équitablement réparti, je dirais, en termes industriels parmi les principaux pays européens. Et la France a longtemps bénéficié de la puissance de son industrie, qui est encore très forte aujourd'hui. Et ça, c'est quelque chose qui est de plus en plus contesté. Le paysage industriel est en train de changer. Et donc, effectivement, les proportions de retour, on va dire, de l'effort collectif, eh bien, sont en train de se modifier. Effectivement, la France, aujourd'hui, n'a peut-être plus le rôle de leader qu'elle avait par le passé.
Et les priorités, en fait, est-ce qu'on peut dire, est-ce qu'on sait ce que sont les priorités? Est-ce que désormais, les temps étant ce qu'ils sont, les priorités deviennent plus sur l'espace militaire? Est-ce que ça veut dire qu'on a oublié un peu, ou en tout cas mis de côté un certain nombre de travaux d'exploration ou pas? Est-ce que les deux peuvent avancer sur la même jambe, ou est-ce qu'on en est?
Alors, effectivement, on essaye de faire avancer un peu tout sur la même jambe, d'après ce qu'on voit des budgets. Les militaires sont effectivement aujourd'hui, alors à la faveur de la situation géopolitique, bien sûr, mis en avant. En France en particulier, on a le commandement de l'espace, on a un certain nombre de programmes. On n'oublie pas quand même la science. Il faut se rappeler que l'identité du spatial européen, c'est d'abord une identité scientifique, c'est la mise en commun d'une excellence en réalité. Donc là, il y a des programmes qui vont être soutenus, en fait, discutés, qui sont des très beaux programmes scientifiques, mais on a effectivement cet équilibre qui est difficile à trouver.
Il y a cette phrase d'Emmanuel Macron à Toulouse tout récemment qui dit « La guerre d'aujourd'hui se joue déjà dans l'espace, la guerre de demain commence dans l'espace ». Ça change les priorités, ce genre de choses, ce genre de prise de conscience?
Oui, on voit par exemple des nouveaux programmes qu'on n'avait jamais imaginés il y a quelques années, qui sont des programmes de satellites qui vont aller voir d'autres satellites, éventuellement les perturber.
J'ai voulu demander si ça existait vraiment, en fait, les missiles anti-satellites, les armes anti-satellites, la menace réelle là-dessus, qu'est-ce que j'ai vu aussi, une espèce de bouclier, en fait, qui servirait à protéger notamment nos propres satellites. On en est là en ce moment?
Oui, on commence à penser à on est en train de les développer, des satellites patrouilleurs qui observeraient autour de nos satellites des approches éventuellement hostiles par d'autres satellites. Ça, c'est Florence Parly qui en avait parlé il y a quelques années, avec un satellite russe qui se baladait un peu. Et puis on a effectivement, ça c'est ancien en fait, des armes spatiales, des armes dites anti-satellites, qui soit utilisent l'aspect cinétique avec une collision, soit utilisent des lasers, des armes ce qu'on appelle à énergie dirigée. Donc ça, c'est des choses qui sont là de manière ancienne. Il n'y a jamais eu de course aux armements dans l'espace, mais on voit bien que ça commence à se tendre.
On est à deux doigts de ça ou pas, d'une course aux armements dans l'espace et une guerre dans l'espace, comme le dit effectivement Emmanuel Macron en fait?
Oui, ce qu'on voit, c'est vraiment une tension qui s'accroît. Ce qu'on voit, c'est des satellites qui s'approchent un peu à la manière, vous savez, des avions qui vont survoler une frontière, qui font des incursions dans le territoire. Voilà. Ça, on le voit de plus en plus dans l'espace.
Ben voilà, on voit déjà des drones qui font ça, j'allais dire, sur Terre. On a bien compris qu'on n'était pas loin. Xavier Pasqueux, vous êtes le directeur de la Fondation pour la Recherche Stratégique. Je vous remercie beaucoup de votre passage chez nous. Vous revenez quand vous voulez. La suite, c'est Le Monde à l'endroit et c'est vous, Louise Baudet.
On est au Nigeria ce soir, frappé de double peine. La faim qui menace, les kidnappings de masse et Donald Trump qui n'est pas loin.
Allez, juste après ça. Finlay, Helping Hands, dans la playlist de France Inter. Le monde à l'endroit, c'est Louise Baudet.
Fabienne Synthèse. Le 18
juin. Louise, on parle du Nigeria ce soir, le plus peuplé des pays d'Afrique. Louise, vous nous expliquez pourquoi et par qui des centaines d'écoliers et de villageois sont kidnappés sous l'œil attentif de l'Amérique trumpiste.
Et d'abord, cette image, celle de salles de classe et de dortoirs vides, de casiers éventrés, de vêtements d'enfants, de jouets, de tapis d'éveil éparpillés au sol. Photo de l'école Sainte-Marie à l'ouest du Nigeria, où 315 élèves et enseignants ont été enlevés vendredi dernier au petit matin. Kidnapping de masse, l'un des plus importants dans le pays depuis celui de Chibok. Rappelez-vous, c'était en 2014. 276 lycéennes enlevées, alors par les djihadistes de Boko Haram. Un mouvement à la résonance mondiale, Bring Back Our Girls. 90 de ces jeunes filles toujours portées disparues. Et depuis, des centaines d'autres enlèvements massifs dans des écoles, des églises, sur les places de villages du nord et de l'ouest du pays.
Alors, qui sont les auteurs de ces kidnappings et qu'est-ce qu'ils cherchent ?
Alors, aucun des derniers enlèvements n'a été revendiqué, mais les populations locales et les autorités parlent de bandits et les Nations Unies de groupes parfois lourdement armés, rassemblant de quelques dizaines à plusieurs milliers d'hommes actifs dans les zones rurales mal surveillées du nord-ouest du pays. Ils pillent le bétail, ils kidnappent et rançonnent de quelques centaines à plusieurs dizaines de milliers de dollars pour chaque personne enlevée. Mobile principal, l'argent donc, et non le djihad, à la différence de Boko Haram et de l'État islamique en Afrique de l'Ouest, groupe terroriste actif dans le nord-est du pays, dont l'insurrection déclenchée en 2009 a fait plus de 40 000 morts et 2 millions de déplacés. Et face à ce double défi sécuritaire, l'armée nigériane est débordée, occupée aussi à d'autres tâches. Le quart des effectifs policiers était jusqu'à dimanche soir affecté à la protection des politiciens et de leurs familles, avant que le président Tinubu ne soit contraint de réagir.
Un président nigérian donc sous la pression de l'ONU, qui réclame aujourd'hui des mesures et sous la pression aussi de Donald Trump.
Oui, le président américain prend à bras-le-corps la catastrophe sécuritaire nigériane, mais à sa manière et selon son narratif. Narratif dicté par la droite religieuse américaine qui accuse le Nigeria de tolérer les meurtres de chrétiens. Et tant pis si ces accusations de persécution ciblée sont contredites par les faits, le terrorisme frappant en réalité au moins autant les musulmans que les chrétiens dans ce pays multiconfessionnel. Donald Trump a menacé début novembre de mener une action militaire au Nigeria, pays qu'il a classé comme particulièrement préoccupant en matière de liberté religieuse.
Et double peine, Louise, pour le Nigeria, qui est aussi frappé par la fin du programme d'aide américaine aux pays pauvres.
Oui, c'est l'alerte lancée ce matin par le PAM, le Programme Alimentaire Mondial de l'ONU, le démantèlement de l'USAID et les coupes budgétaires opérées par les autres pays riches, dont la France. Tout cela plonge les programmes humanitaires dans une situation catastrophique et la faim menace aujourd'hui 35 millions de personnes dans le nord du Nigeria. Crise alimentaire la plus aiguë depuis une décennie, aggravée évidemment par la recrudescence des attaques djihadistes et des bandits. Le chaos qui engendre la famine, elle-même exploitée par les groupes armés pour étendre leur influence. Engrenage documenté à l'inverse du génocide chrétien imaginé par les conservateurs évangéliques américains.
Merci beaucoup. Louise Baudet, vous reviendrez demain. Le reportage.
J'imagine. Peut-être on va le laisser.
Les reportages d'un jour dans le monde. Ce soir, voyage du Caire jusqu'à la Bretagne. C'est l'histoire d'un exil à plusieurs vitesses. Voici une famille de Gaza, la famille Razal, que la guerre a dispersée. La fille aînée s'appelle Ala. Elle a été évacuée fin 2023 avec sa fille de 7 ans, qui s'appelle Julia. C'est une ancienne employée de l'Institut français de Gaza. Elle vit désormais dans la commune bretonne de l'Ermitage. C'est pas loin de Rennes. Elle s'est remariée et Julia apprend le français à l'école. Mais le reste de la famille est resté bloqué au Caire et vit toujours dans l'incertitude faute de permis de résidence durable accordé par l'Égypte. Ala et le reste de la famille sont donc séparés depuis 2 ans. Une histoire d'exil peu banale. Et encore que, dans le récit commence donc en Bretagne. Et le reste, c'est Martin Dumas-Primbault qui raconte.
Nous avions rencontré Ala pour la première fois au Caire le 10 novembre 2023. Après un mois dans l'enclave bombardée, elle et sa fille s'apprêtaient à embarquer pour Paris. 2 ans plus tard, c'est dans sa maison de l'Ermitage, par une fraîche matinée d'automne, qu'elle nous accueille.
Je suis arrivée en France il y a 2 ans. Et je me rappelle quand on s'est vu à l'hôtel au Caire quand je suis sortie de Gaza. Là, aujourd'hui, je suis à Rennes, bien installée. Je suis mariée à un Breton, à un Rennais. Donc, j'ai déménagé il y a 3 mois ici, dans cette maison. Bienvenue.
J'enlève mes chaussures.
Ahla ou sahla.
Shukran. Moi, je me souviens, il y a 2 ans, quand on s'est vu au Caire, je me souviens d'une Ala qui sursautait encore quand il y avait des bruits un peu trop forts. Je me souviens d'une Ala qui allait acheter des vêtements chauds parce qu'elle allait arriver en France. Qu'est-ce qui a changé entre la Ala d'il y a 2 ans et la Ala d'aujourd'hui ?
J'étais une survivante de la guerre de Gaza, de génocide. J'étais vraiment perdue, j'avais laissé mes parents derrière. Mais Ala aujourd'hui, qui est attachée plus à la France, parce que j'ai construit ma vie avec quelqu'un que j'aime, et ma fille elle est bien installée à l'école, je suis bien accueillie. C'est ça qui a changé, mais à part ça, moi je suis toujours Ala la palestinienne, qui est très fière de ses origines, qui est fière de chez elle et qui vous retourne un jour, bien sûr.
Après un passage par Bordeaux, puis Périgueux, logée avec sa fille dans des centres d'accueil parfois insalubres, Ala a enfin obtenu un permis de séjour de 10 ans. En échange, son passeport palestinien lui a été retiré. C'est la règle. Toute autorisation de voyage est désormais conditionnée à l'obtention d'un document qui tarde à arriver.
C'est le titre de voyage donné par l'État français. C'est long, c'est vraiment long et ça dépend des départements. Je rêve en fait d'aller en Égypte, au Caire, pour voir mes parents.
Ses parents ont gagné l'Égypte seuls quelques mois après elle.
Ils étaient obligés de sortir de Gaza pour sauver leur vie et la vie de ma sœur. En France, moi, j'ai la carte de séjour. Je suis ici d'une manière légale. Eux, ils habitent au Caire, ils n'ont pas une carte de séjour. Ils ne peuvent pas, par exemple, quitter l'Égypte pour voyager. Donc, non, moi, je pense, ok, je suis loin de chez moi, mais mes conditions, c'est beaucoup mieux que tous les Palestiniens qui sont en ce moment en Égypte.
3500 kilomètres et la mer Méditerranée séparent aujourd'hui Ala de ses parents. C'est ici, dans la bourdonnante capitale égyptienne, que Mohamed et Fadwa Razal ont trouvé refuge comme plus de 100 000 Gazaouis ayant fui l'enclave ravagée. Ils nous ont donné rendez-vous dans leur appartement de location du quartier de Sher Zayed.
Bonjour, salam
alaykoum. Alaykoum salam, alaykoum salam.
Le salon, presque vide, ressemble à un appartement témoin. 1 an et demi après leur arrivée, s'installer reste encore trop douloureux.
En arrivant, on pensait rester quelques mois puis rentrer. Alors pourquoi acheter des affaires ? Tout est resté à Gaza.
Leur vie est en suspens. L'État égyptien, qui refuse d'accorder à ses exilés un permis de résidence durable, n'offre aucune perspective d'installation.
Nous sommes accrochés à l'espoir de retrouver notre pays. Ce matin encore, nous en parlions au téléphone avec Ala. On se disait qu'on voulait retourner là-bas, être réunis à nouveau.
Malgré le cessez-le-feu précaire instauré en octobre, la fermeture continue du passage de Rafah coupe toujours l'accès à Gaza et rend tout retour impossible.
Martin Dumas-Primbault, merci beaucoup Martin et à très vite. La suite, c'est l'actualité internationale passée sous les radars et c'est Guillaume Audin.
Sous les radars au Mali où il est question d'or, de djihad, de kaki, les rapaces sont sortis.
Et puis comme chaque mardi, Caroline au pays des 27.
Oui, aujourd'hui on votait au Parlement européen pour ou contre Oedipe. Alors c'est pas de la mythologie ni de la psychanalyse, alors c'est quoi ?
Alors on verra ça tout de suite, à tout de suite les amis, restez avec nous, la soirée est encore jeune. Voici C'est où Georges et Starman. Celui de Bowie, figurez-vous, repris pour le film La vie aquatique de Wes Anderson sur France Inter.
Vozes no meu rádio, oh, oh. São quatro ciclos no escuro deserto do céu. Quero um machado pra quebrar o gelo, oh. Quero acordar do sonho agora mesmo, oh. Quero uma chance de tentar viver sem dor. Sempre estar lá e ver ele voltar. Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar. Sempre estar lá e vê-lhe voltar. O tolo teme a noite, como a noite vai temer o fogo. Vou chorar sem medo, vou lembrar de um tempo. De onde eu vim, o mundo azul. Trajetória escapa o risco nu. As nuvens queimam o céu, o nariz azul. Desculpe, estranho, eu voltei mais puro do céu. Na lua o lado escuro é sempre igual. No espaço a solidão é tão normal. Desculpe, estranho, eu voltei mais puro do céu. Sempre estar lá e vê-lhe voltar. Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar. Sempre estar lá e vê-lhe voltar. O tolo teme a noite, como a noite vai temer o fogo. Eu vou chorar sem medo, vou lembrar do tempo. De onde eu vi o mundo azul estar lá e vê-lhe voltar. Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar. Sempre estar lá e vê-lhe voltar. O tolo teme a noite, como a noite vai temer o fogo. Eu vou chorar sem medo, eu vou lembrar do tempo. De onde eu vi o mundo azul.
Géniale version de Starman, signé Seu Jorge, le Brésilien, Starman de Bowie, bien sûr, sur France Inter et dans Un jour dans le monde, sous les radars, c'est Guillaume Audard.
L'État malien et la société canadienne ont signé cet après-midi un protocole d'accord qui met fin...
Et d'abord au Mali, Guillaume, la télévision là parle de conciliation avec un géant de l'or canadien. En réalité, c'est une respiration.
Une très grosse bouffée d'air pour la junte militaire et la certitude que du cash va enfin rentrer dans les caisses. Le pouvoir malien, on en parle ici régulièrement, un pouvoir kaki, autoritaire, est en ce moment asphyxié par un groupe djihadiste qui contrôle la majeure partie du pays, sauf Bamako, la capitale. Ils organisent ces djihadistes depuis trois mois une pénurie d'essence et attendent patiemment que le fruit tombe de l'arbre. C'est là que ce deal intervient. Barrick, une société canadienne spécialisée dans l'extraction d'or, accepte de solder son différend avec le pouvoir, de reprendre ses activités au terme d'un bras de fer qui dure depuis 2023. Pressurisé militairement, exsangue économiquement, privé d'aide internationale, la junte ne pouvait plus se permettre de laisser ses mines d'or inexploitées, ne serait-ce que pour payer la troupe et se maintenir au pouvoir. Le Mali dispose du plus grand gisement d'Afrique, d'où 20 tonnes sortaient chaque année. Le géant canadien, petite leçon de réel politique économique, n'a eu qu'à attendre, se pencher et puis ramasser.
Nous sommes à Saint-Pétersbourg et c'était il y a un mois, un concert inédit dans les rues de la ville. La chanteuse de ce groupe avait été enfermée, elle vient d'être libérée, mais contrainte aussi de quitter la Russie.
Diana Loginova, alias Noako, étudiante en musique d'à peine 18 ans, elle chante la paix dans les rues du pays, elle rassemble des foules compactes, une jeunesse éprise de liberté dès lors qu'elle donne un concert sans autorisation. Vous entendez le son, il est un peu sale, un peu cracra, parce qu'il est enregistré à la volée, clandestinement. Reste que les vidéos de cette jeune artiste étaient devenues virales, elles se partageaient presque sous le manteau numérique, en tout cas sur des messageries cryptées, à tel point que Noako a fini emprisonnée, je cite, pour trouble à l'ordre public, discrédit de l'armée russe et pour avoir organisé un rassemblement de masse, hein, ils étaient quelques centaines, sans en avoir la permission. Son arrestation avait créé une immense vague de soutien dans ce pays où pourtant toute critique de la guerre que mène Poutine en Ukraine est réprimée. Naoko est libre, elle a quitté la Russie, laissant orpheline la jeunesse de son pays.
Et ces hommes que l'on entend tout au fond de l'Éthiopie s'extasient devant un volcan qui vient de se réveiller après 12 000 ans.
Haïli Gubbi, c'est le nom de ce volcan situé dans le nord-est du pays, en plus d'entrer en éruption après 12 000 ans. 12 millénaires, ce n'est pas
fait beaucoup.
Une mince affaire.
Une longue sieste.
Il se réveille, ce volcan, avec un certain panache, si je puis dire, un panache de fumée, 14 km de haut, visible depuis l'espace, des volutes monumentales qui, poussées par les vents, finit par traverser le détroit de Bab el-Mandeb en mer Rouge. Elle plonge désormais ses cendres, ses volutes de fumée, les côtes du Yémen sous une brume épaisse. Les vols de passage dans la région ont été détournés, sans doute pour plusieurs jours encore. Sur place en Éthiopie, personne n'a été blessé par l'éruption de Haïli Gubbi, mais les éleveurs locaux craignent que le réveil de ce monstre n'affecte leurs moyens de subsistance. Les prochaines semaines seront décisives, disent les volcanologues. Elles diront s'il s'agit d'une éruption isolée ou d'un nouveau cycle d'activité. On est parti pour 12 000 ans.
Ah ben, écoutez, j'allais dire, vous reviendrez nous raconter. Ce sera formidable. Merci beaucoup, Guillaume. À demain. Allez, le mardi. Caroline Gillet pousse les portes de l'Europe. Toc, toc, toc.
France Inter. Le 18-20.
Et Caroline, ce soir, vous nous proposez de retrouver le Tarnais, Hugues Parmentier.
Oui, qui dans un précédent épisode nous avait fait visiter le bunker de la Commission. Il existe et entre-temps, il est devenu chef d'unité de la stratégie des relations interinstitutionnelles et de la sécurité de l'information. Et ces jours-ci, il a été très occupé avec Oedipe, un programme pour réduire notre dépendance à l'armement américain. Ce programme, il a fallu le négocier en trilogue, puis le voter, c'était aujourd'hui. Et Hugues a accepté de me raconter tout ça via note vocale. Ce sont les premières qui l'enregistrent. C'est savoureux parce qu'elles commencent toutes comme ça.
Bonjour Caroline, c'est Hugues. Bonjour Caroline, c'est Hugues.
Mais avant les notes vocales, avant le trilogue, je le retrouve dans son bureau à la DG Défi. Direction Générale, Industrie de Défense et Espace, qui a été créée en 2019.
Alors, Lina, qui est lituanienne...
Hugues adore présenter ses collègues, et à chaque fois que je lui demande une photo de lui pour la page de la chronique, il propose à l'un, l'une ou l'autre de poser avec lui, et donc j'ai désormais plein de photos avec des gens que je ne connais pas.
Enchanté.
Mais alors, la défense, c'est une prérogative nationale et pas européenne. D'ailleurs, certains pays et partis estiment que la Commission veut en faire trop sur les questions de défense. Alors comment Hugues défend-il l'utilité de cette DG Défense à la Commission ?
Et si vous voulez, aujourd'hui, c'est très difficile de faire transiter un véhicule blindé de la France vers la Lituanie, parce qu'il faut traverser beaucoup d'États membres et qu'on ne traverse pas des frontières avec des véhicules blindés comme ça. On fait en sorte qu'il y ait les infrastructures ferroviaires, mais les décisions appartiennent toujours aux États membres.
Ce jour-là, il y a donc trilogue. Ça fait penser à ventriloque, mais ça n'a rien à voir. En gros, quand l'UE produit du texte législatif, c'est à la Commission de faire des propositions. Ensuite, il y a deux co-législateurs, le Conseil, qui représente les gouvernements des 27, et le Parlement, qui vont chacun modifier le texte de leur côté, pour ensuite se retrouver au trilogue.
Un trilogue, on réunit dans leur...
C'est ce qui sert donc à les mettre d'accord avec la Commission, qui joue le rôle de médiateur.
Dans une salle, avec un drôle de document qu'on appelle... Un tableau quatre colonnes, où vous avez première colonne le texte de la proposition de la Commission, deuxième colonne celui du Conseil, troisième article par article le texte du Parlement, et puis une quatrième colonne vide, où on essaye de se mettre d'accord sur un texte commun. Donc à 17h, on a le quatrième trilogue sur un projet de texte qui s'appelle EDIP.
Programme européen pour l'industrie de la défense, qui vise donc à renforcer la préparation industrielle de l'Union en matière de défense. Le budget, c'est 1,5 milliard d'euros issus du budget de l'UE.
La spécificité du trilogue EDIP, c'est que, curieusement, les deux co-rapporteurs sont tous les deux français.
Les deux co-rapporteurs, c'est donc l'eurodéputé François-Xavier Bellamy, issu des Républicains, plutôt à droite, et Raphaël Glucksmann, de Place Publique, plutôt centre-gauche.
Et ils tiennent tous les deux la ligne du Parlement dans cette négociation, et ça se passe très bien.
C'est une réunion qui dure combien de temps ? L'idée, c'est de trouver un accord d'ici ce soir ?
On essaye d'éviter que ça dure toute la nuit, mais sur un autre texte, je me souviens d'avoir terminé à 2h du matin, et voilà, ça peut arriver.
Vous savez sur quel point ça risque de coincer ?
Le point classique, c'est la question de l'éligibilité.
L'éligibilité, c'est les conditions qui seront mises pour pouvoir accéder à cet argent. Certains États membres aimeraient de la flexibilité, et pouvoir acheter beaucoup, notamment aux États-Unis.
On s'entend très bien avec les Américains, mais on s'entendra d'autant mieux qu'on sera libre et indépendant.
Petit rappel, jusqu'ici, les achats d'armes des 27 se faisaient à plus de 60% en dehors de l'UE, et justement essentiellement aux États-Unis.
C'est-à-dire qu'on veut s'assurer que cela bénéficiera vraiment à l'industrie européenne, et donc ça implique deux choses. D'une part, d'avoir des composants européens. On veut s'assurer qu'il y ait au moins deux tiers des composants qui sont européens. Et puis, on veut s'assurer qu'il y ait une autorité de conception qui soit européenne, c'est-à-dire qui permette une indépendance dans l'utilisation. Par exemple, si vous achetez du matériel américain, on l'a vu quand on a voulu donner des missiles américains à l'Ukraine, les États membres qui voulaient donner ces missiles devaient demander la permission à Washington avant de le transférer à l'Ukraine. Même chose, l'Ukraine doit demander la permission avant de tirer n'importe quel missile américain. C'est pour ça que le président Trump a dit récemment qu'il autorisait les frappes dans la profondeur, parce que les missiles étaient déjà chez les Ukrainiens, mais ils ne pouvaient pas les utiliser comme ils le voulaient.
Et voilà, il est 17h, Hugues est dans le Trilogue.
Bonjour Caroline, c'est Hugues.
Il m'envoie des photos pas très bien cadrées, parce que je crois qu'il n'a pas trop le droit.
C'est une salle assez datée.
Au premier plan de ces photos, il y a le sachet de thé Lipton qu'il vient d'ouvrir.
Des tables en bois clair, vernis, qui forment un grand ovale.
Lui, avec la commission, il est d'un côté de la table. À une autre extrémité, il y a le Parlement, et donc les co-rapporteurs français. Et sur un troisième côté de la table, le Conseil, avec la présidence tournante, qui est danoise en ce moment.
Et l'objectif, c'est que tout le monde ressorte avec un compromis acceptable. Donc j'espère que cette fois-ci, on va y arriver. Comme dirait Jean-Claude Buss, on sent que tout le monde veut conclure. Je vous tiens au courant.
À 21h30, Hugues m'envoie un nouveau message.
Fumée blanche, on a un accord sur EDIP. On a une règle du jeu qui est qu'au moins les deux tiers des composants doivent être fabriqués en Europe. L'Ukraine fait partie du programme dès le départ pour intégrer leur industrie de défense avec la nôtre. Et pour la première fois, un vrai système européen pour sécuriser nos approvisionnements en cas de crise. Voilà Caroline, l'Europe de l'industrie de défense avance. Bonne soirée.
C'était Hugues.
Oui, voilà. Et l'étape suivante, c'était le vote au Parlement à midi aujourd'hui. Hugues y était, bien sûr, il a enregistré les sons qu'on entend derrière nous. Et les députés ont voté oui. On racontera tout ça dans le prochain épisode.
Merci beaucoup, Caroline. Vous reviendrez mardi prochain avec plaisir. Oui, ben vous reviendrez quand vous voulez. De toute façon, vous êtes toujours la bienvenue.